suivre leurs conseils. De Washington.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 30 novembre 2023. L'Amérique perd un géant de la diplomatie, Henry Kissinger, est mort hier à l'âge de 100 ans. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit espérer la poursuite de la trêve entre Israël et le Hamas. La COP28 à Dubaï s'ouvre en fanfare avec la naissance du fonds pour les dommages climatiques. Au Gabon, les bases du dialogue national inclusif promis par les militaires sont jetées. Plus de 10 000 contributions viennent d'être formulées par des citoyens.
Après la phase d'appel à contributions publiques, nous irons vers la phase d'analyse des contributions qui nous permettront de découvrir qu'est-ce que les Gabonais pensent domaine par domaine, secteur par secteur.
Reportage à suivre dans la partie magazine. En Allemagne, un Gambien condamné à la perpétuité pour crime contre l'humanité. Ne manquez pas notre page pour ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. L'actualité américaine, Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine, est mort à l'âge de 100 ans dans sa maison du Connecticut. L'annonce a été faite par sa société de conseil, Yakuba Ouedraogo.
Henry Kissinger est né le 27 mai 1923 à Fürth, en Allemagne, sous le nom de Heinz Alfred Kissinger. Avec sa famille qui était juive, il s'est réfugié aux États-Unis en 1938 pour échapper aux nazis. Il s'est engagé dans l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, puis a étudié à l'université de Harvard. Lorsqu'il est entré en fonction en 1969, le président Richard Nixon a choisi Kissinger comme conseiller à la sécurité nationale. Puis il l'a nommé secrétaire d'État, devenant le premier à occuper les deux postes à la fois. Kissinger a mis en place sa propre réelle politique, fondant la politique étrangère sur ce qu'il appelait des décisions pratiques plutôt que morales. Il n'a pas révélé au Congrès les bombardements aériens américains de 1969 sur le Cambodge et le Laos qui ont entraîné une escalade de la guerre du Vietnam. Mais c'est aussi lui qui a rencontré des dizaines de fois le duc Tho de Corée du Nord pour négocier la fin de la guerre, ce qui leur a valu à tous deux le prix Nobel de la paix en 1973. Le duc Tho l'a refusé. Kissinger s'est engagé avec la Chine en 1972, préparant le terrain pour la visite historique du président Nixon dans le pays communiste pour rencontrer le président Mao Zedong. Il a conseillé tous les présidents américains depuis Nixon jusqu'au président Joe Biden qui ne l'a pas invité dans le bureau ovale. Il a déclenché une nouvelle controverse en 2022 lorsqu'il a semblé dire que l'Ukraine devrait être prête à faire des concessions territoriales pour mettre fin à l'invasion russe.
L'héritage diplomatique d'Henry Kissinger a été salué par plusieurs grandes puissances après l'annonce de son décès, Idriss Fall.
Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a salué la mémoire de son illustre prédécesseur. L'Amérique a perdu l'une des voix les plus sûres et les plus écoutées au monde, a déclaré l'ancien président George W. Bush, républicain comme lui. Pékin salue ses contributions historiques, soulignant qu'il s'est rendu en Chine plus d'une centaine de fois, dont en juillet dernier pour discuter avec le président Xi Jinping, qui avait salué à cette occasion un légendaire diplomate. Le premier ministre japonais Fumio Kishida a pour sa part souligné ses contributions significatives à la paix et la stabilité en Asie. Le président français Emmanuel Macron le décrit comme un géant de l'histoire. Le président russe Vladimir Poutine salue un homme d'État sage et visionnaire. Le président israélien Isaac Herzog rappelle que l'ancien chef de la diplomatie américaine a posé la pierre angulaire de l'accord de paix entre Israël et l'Égypte. Le chef de la diplomatie britannique et ancien premier ministre David Cameron salue un grand homme d'État, un diplomate respecté qui sera très regretté sur la scène internationale. S'il est possible que la diplomatie soit une forme d'art, Henry Kissinger était un artiste, a déclaré de son côté l'ancien premier ministre britannique Tony Blair. Le chancelier allemand Olaf Scholz a estimé que le monde a perdu un grand diplomate. Henry Kissinger avait fui l'Allemagne nazie pour s'installer avec sa famille aux États-Unis. Il est resté attaché à son pays natal. Le modeste club de football de Fürth, sa ville natale près de Nuremberg en Bavière, a salué jeudi la mémoire de l'ancien diplomate qui était un membre d'honneur de cette équipe de deuxième division en Allemagne.
Vous suivez VOA Afrique, la suite du journal. Le secrétaire d'État américain a dit espérer la poursuite de la trêve fragile entre le Hamas et Israël qui a permis la libération d'otages et l'acheminement d'aide à la bande de Gaza. Le point avec Deli Diko.
Une trêve entrée en vigueur le 24 novembre a été prolongée jeudi d'un jour jusqu'à vendredi et de nouvelles libérations d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens sont prévues. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a souligné qu'il est impératif de tenir compte des besoins humanitaires et de protection des civils dans le sud de la bande de Gaza avant d'y mener des opérations militaires après un entretien avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Monsieur Blinken a aussi exhorté la justice israélienne à traduire les colons juifs qui commettent des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Pour sa part, la France condamne avec la plus grande fermeté l'attaque à l'arme à feu revendiquée par le Hamas qui a fait 3 morts à Jérusalem. La guerre à Gaza s'est invitée aux négociations sur le climat à Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec une minute de silence à laquelle a appelé le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, pour tous les civils tués dans ce conflit.
La conférence des Nations Unies sur le climat, la COP28, met en œuvre un fonds sur les pertes et dommages réclamés depuis longtemps par les pays vulnérables ravagés par les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique. Les détails avec Ginny Niwa.
Le lancement du fonds destiné à financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables a été adopté jeudi dès le premier jour de la COP28 à Dubaï. Une perspective pour réduire les tensions entre le Nord et le Sud en parallèle à des négociations sur les énergies fossiles. Cette décision historique, dont le démarrage est prévu en 2024, a été saluée par une acclamation debout des délégués de quelques 200 pays. Les pays en développement réclament depuis la conférence de Paris 100 milliards de dollars car ils subissent plus les effets dévastateurs du changement climatique et sont les moins pollueurs. Les Émirats ont annoncé immédiatement leur contribution de 100 millions de dollars. Selon le texte adopté, le fonds doit être accueilli provisoirement pour 4 ans au sein de la Banque mondiale. Les premières contributions permettront de financer des projets pilotes et tester le fonctionnement du fonds.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité africaine en quelques brèves. Au Burkina Faso, c'est une première réaction officielle suite à l'attaque de Djibo le week-end dernier. Le capitaine Ibrahim Traoré, en marge du lancement des travaux d'un nouveau centre hospitalier dans le sud-ouest du pays, a qualifié ces événements d'attaques d'envergure et sans précédent. Dans le Sahel burkinabé, il a salué la combativité des hommes qui y étaient et aussi les décisions importantes qui ont pu être prises, selon lui, ayant permis de mettre l'ennemi en déroute. Le président de la transition burkinabé a affirmé que la bataille contre le terrorisme sera rude et longue, mais le Burkina Faso ne fléchira pas. En Guinée, l'ancien ministre de la Santé Mamadou Paté Diallo, limogé le 21 novembre, a été inculpé et placé sous contrôle judiciaire pour des faits présumés de détournement de fonds publics. La Cour de répression des infractions économiques et financières a décidé de l'inculper pour des faits de détournement de deniers publics, d'enrichissement illicite, de blanchiment de capitaux, de corruption, de concussion et complicité, a déclaré Maître Lansine Sylla, son avocat. C'est une affaire purement politique et non judiciaire, a déclaré Maître Bombi Mara, autre conseil de l'ancien ministre. La justice allemande a condamné aujourd'hui un Gambien, Baello, à la prison à perpétuité pour sa participation à un escadron de la mort, coupable d'exactions sous le régime du président Yahya Jammeh, y compris de l'assassinat d'un journaliste. Baello était membre d'un escadron de la mort qui assassinait des opposants à l'ancien dictateur, un jugement qualifié de petit pas sur la voie de la justice par les proches des victimes. Son procès a été possible car l'Allemagne se reconnaît une compétence universelle pour certains crimes graves en vertu du droit international qui lui permet de juger sur son sol des suspects indépendamment de leur nationalité ou du lieu où les crimes présumés ont été commis. Au Nigeria, 4 membres des forces de sécurité ont été tués mardi dans une embuscade tendue par des djihadistes dans le nord-est du pays. Les djihadistes ont attaqué une équipe de soldats et de miliciens anti-djihadistes qui se dirigeaient à moto vers la ville de Mongono à 140 km de Maïdigouri, capitale de l'état de Borno. Ont affirmé deux milices. Et puis, en Éthiopie, au moins 23 personnes sont décédées du choléra en deux semaines dans l'est du pays, touché aussi par d'importantes inondations, a déploré Save the Children, qui craint que l'épidémie ne devienne incontrôlable dans la région. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Michel Joseph.
Lancement d'un fonds pertes et dommages pour le climat à la COP28 à Dubaï. L'annonce a été suivie de promesses dont 246 millions de dollars de l'Union européenne, 100 millions de dollars des Émirats arabes unis, 40 millions de dollars du Royaume-Uni, 17,5 millions de dollars des États-Unis. Toutefois, les fonds promis sont loin d'atteindre les 100 milliards de dollars réclamés par les pays en développement. Plus de 400 projets pétroliers et gaziers ont été approuvés dans le monde au cours des deux dernières années. Près de 200 entreprises privées et publiques à travers 58 pays ont été impliquées dans les 437 nouveaux projets de combustibles fossiles. Ces données montrent le décalage entre la poursuite de l'exploitation des combustibles fossiles, responsables de la plupart des gaz à effet de serre, et l'objectif de limitation du réchauffement de la planète. Réunion de l'OPEP à Vienne, les 13 ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, conduits par Riyad, et leurs 10 alliés emmenés par Moscou, se sont entendus pour abaisser encore la production à hauteur de 600 000 à 1 million de barils par jour. En parallèle, l'Arabie saoudite devrait encore prolonger sa réduction volontaire d'un million de barils par jour au-delà de 2023.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Le Maroc domine toujours le classement FIFA Zone Afrique.
13e mondial, le Maroc trône toujours le continent africain devant le Sénégal. 20e et la Tunisie qui réintègre le top 30 mondial pour s'installer à la 28e place. Idem pour l'Algérie, 30e mondial. Grâce à ces deux victoires en éliminatoire du mondial, la Côte d'Ivoire se hisse à la 50e place mondiale. La grosse progression est à mettre à l'actif des Comores qui gagnent 9 places pour se positionner à la 119e place. C'est leur meilleure position. Ce bon des Coélancantes est dû à leurs deux victoires consécutives, 1-0 contre le Ghana et 4-2 face à la République centrafricaine.
Mehdi Benassia rejoint Marseille comme conseiller sportif.
L'ancien international marocain et ancien défenseur de la Juventus Turin ou du Bayern Munich a été nommé conseiller sportif de l'Olympique de Marseille où il a été formé. L'annonce est faite par le club français. Mehdi Benassia, 36 ans, vient combler le vide laissé par le départ de Javier Ribalta dans la foulée de la tumultueuse réunion entre dirigeants et représentants des groupes de supporters au mois de septembre. Il n'aura toutefois pas le même statut que l'Espagnol, qui était membre du directoire. Benassia sera, lui, placé sous les ordres de Stéphane Tessier, désormais directeur général du club marseillais. L'OM précise que le Marocain devra apporter son concours à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie sportive du club pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Marseille, 12e de la Ligue 1, accueille Rennes dimanche pour le compte de la 14e journée.
Ici en NBA, Orlando poursuit sa série d'invincibilité.
Le Magic a surclassé les Washington Wizards 139 à 120, sa 8e victoire de suite cette saison. Orlando se hisse à la 2e place de la conférence Est avec Milwaukee. Si le Magic bat à nouveau les Wizards samedi, il va régaler sa plus longue série de victoires de suite avec 9 unités. Fin de série par contre pour Philadelphie. Malade, le Camerounais Joel Embiid a fait défaut à l'équipe demi-finaliste de la conférence la saison dernière, battue en Louisiane par la Nouvelle-Orléans 124 à 114. Les Sixers étaient à 7 succès d'affilée. Triple-double pour Nikola Jokic. À Denver, le maître a joué des Nuggets double MVP 2021-2022, a engrangé 32 points, 15 passes décisives et 10 rebonds, contribuant à la victoire du champion en titre contre les Houston Rockets, 134 à 124. Les Detroit Pistons ont encaissé face à leurs visiteurs, les Los Angeles Lakers, large vainqueur 133 à 107, leur 15e défaite consécutive, et sont bons derniers de la conférence Est. Sacramento s'est incliné à domicile face aux Los Angeles Clippers, 131 à 117.
Page des sports VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Gabon, les bases du dialogue national inclusif promis par les militaires sont jetées. Plus de 10 000 contributions viennent d'être formulées par des citoyens. Il s'agit d'un ensemble de propositions devant servir d'éléments de discussion lors du grand rendez-vous de début avril 2024. Ouverte en octobre dernier par le gouvernement de transition, la collecte des participations prend fin ce jeudi. Le point avec notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang-Nzé.
Le ministère gabonais de la réforme des institutions vit probablement les dernières heures de l'appel à contribution au dialogue national inclusif d'avril prochain. Dans les couloirs du bâtiment, un flux important d'usagers souhaitant participer au débat. Chacun se fait enregistrer sur base de ses préoccupations. Suzanne Mazemé Mayemba, militante associative.
Moi, je fais partie des autochtones, je suis à Kélé. Alors, il faut qu'on garde l'essentiel. Je crois qu'on parle plus trop de circoncision, mais ça devrait être. Les femmes ne sont plus socialisées comme ça devait être fait avant, dans le sens où il fallait qu'on les emmène en forêt. Mais ces choses ne sont plus faites. Voilà.
Qu'ils soient jeunes, vieux politiques ou apolitiques, résidents ou non au Gabon, les contributeurs ont le libre choix sur tous les sujets d'intérêt national. Retraité civil, Jean-Olivier vient de consigner ses préoccupations par écrit.
Le dernier retraité gabonais doit toucher au moins 350 000, qui n'a pas d'enfants, avec une maison de deux chambres. Le retraité gabonais qui a beaucoup d'enfants doit toucher 650 000, avec une maison de quatre chambres et de l'espace à l'intérieur. Troisième point, il doit ouvrir les banques postes dans les départements.
Alexandre Barreau-Chambrier, président du Rassemblement pour la Patrie et la Modernité, sera de la concertation.
L'objectif de cette transition, c'est de prendre date pour des élections transparentes, des élections libres et apaisées. C'est cela qui est recherché.
Selon le gouvernement de transition, la feuille de route du dialogue national inclusif n'avait occulté aucune préoccupation. Les contributions attendues sont d'ordre politique, socio-économique et susceptibles de contribuer à la réécriture d'une nouvelle constitution, entre autres. Arcel Mourguema, secrétaire technique au ministère de la Réforme des Institutions.
Après la phase d'appel à contributions publiques, nous irons vers la phase de l'analyse des contributions qui nous permettront de découvrir qu'est-ce que les Gabonais pensent domaine par domaine, secteur par secteur. Et au terme de cette analyse, nous allons faire un rapport sur ce que pensent les Gabonais dans les différents pans de la vie de notre pays.
D'après le secrétariat en charge de la collecte des avis de citoyens, toutes les contributions seront lues, analysées et prises en compte. L'inventaire des problèmes identifiés et les esquisses de solutions feront l'objet d'une restitution officielle en janvier prochain. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Au Cameroun, l'adoption d'un nouveau code minier fait polémique. Le texte adopté à l'Assemblée nationale et au Sénat remplace celui en vigueur depuis 2016. Mais les députés, tant du parti au pouvoir que de l'opposition, ont porté de nombreuses réserves sur la nouvelle politique d'exploitation minière. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Au lendemain de l'adoption du nouveau code minier, le réseau de lutte contre la faim, RELUFA, a révélé les dégâts causés par l'exploitation semi-mécanisée de l'or sur des sites miniers dans la région de l'Est.
L'entreprise minière doit donner les fonds pour qu'on ferme. Et c'est clair dans la loi. Est-ce que c'est fait? Si c'est fait, pourquoi c'est pas fermé? Ça veut dire que le gouvernement aussi a aussi une partie de responsabilité si c'est pas appliqué. C'est pour ça que c'est un sujet qu'on doit amener ça en public pour discuter.
La non-application de cette loi a de l'impact sur l'environnement, mais également sur la santé des riverains. Bertrand Ateba est infirmier dans la région de l'Est.
Des décès vus aux noyades, des fractures, des éboulements de terrain, des destructions des maisons et la destruction de l'environnement. Et vous savez, la plupart des sociétés utilisent des éléments chimiques et nous avons relevé des maladies de la peau, des maladies cardiovasculaires. Nous avons beaucoup de cas de cancer.
Lors de la plénière pour l'adoption du nouveau code minier, les députés de l'opposition ont été les premiers à critiquer la nouvelle politique minière du Cameroun. Roland Ngo ici, député du Parti camerounais pour la réconciliation, PCRN.
Vous parlez de l'instauration du partage de production, alors même que vous dites encore que l'État central reste le détenteur exclusif du patrimoine national et peut l'octroyer à qui il veut.
Le nouveau texte consacre la Société nationale des mines, Sonamine, comme bras séculé de l'État pour la gestion des ressources minières. Joshua aussi, député du Social Democratic Front, SDF, un autre parti de l'opposition, n'y croit pas du tout.
Combien d'entreprises du portefeuille de l'État ont pu rapporter de l'argent aux contribuables camerounais? Pratiquement zéro. Donc la Sonamine ne fera pas exception.
La loi portant code minier a certes réservé aux locaux la possibilité de faire de l'exploitation minière artisanale, mais certains représentants de la nation s'inquiètent de la mise à l'écart du secteur privé. Alioum Fadil, député RDPC, le parti au pouvoir.
Ne serait-il pas plus judicieux pour l'État d'agréer une bonne dizaine de traders nationaux dans le secteur de l'or et du diamant?
Le nouveau code minier a été adopté dans un hémicycle quasi vide, mais le gouvernement s'est dit satisfait et annonce que ce texte permet désormais au Cameroun de passer au statut de pays producteur de minerais. Fou Galactus, ministre des Mines par intérim.
Le Cameroun peut construire ses réserves en or. Le Cameroun peut tirer maximum de bénéfices par partage de production, que les Camerounais s'impliquent davantage.
Le gouvernement camerounais dit s'être inspiré du modèle brésilien pour élaborer le nouveau code minier qui doit être promulgué par le président Paul Biya. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Au Bénin, les consommateurs adoptent d'autres habitudes d'achat qui paraissent moins contraignantes. Le e-commerce laisse entrevoir de nouvelles possibilités. Le secteur de la vente en ligne a le vent en poupe, mais comporte un prix à payer. Le reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur Adandé.
1, 2, 3 clics et vous voilà lancé dans le monde de la vente en ligne. Le secteur est florissant et embrasse tous les domaines. Cosmétiques, électronique, alimentation, même les produits locaux n'échappent pas à ce vent de modernité. Le consommateur béninois se laisse tenter par cette possibilité d'avoir accès à divers produits du monde depuis son canapé.
C'est pratique pour nous qui n'avons pas le temps de sortir là rapidement par le biais du portable, des réseaux sociaux. On a les articles et on achète tranquillement. J'ai eu beaucoup d'expérience dans le domaine et aujourd'hui, je n'achète que chez des gens que je connais, que je maîtrise correctement le site.
Mais chaque chose a souvent son réveil. Le secteur du e-commerce ne fait pas exception. La vente en ligne a déjà déçu beaucoup de personnes et bouleversé de nombreuses vies. Certains ont juré qu'on ne les prendra jamais plus en train d'acheter en ligne.
Quelques jours après, j'ai rencontré un frère qui a acheté le même sac, presque la moitié de ce que moi je l'ai payé.
Quand c'est sur WhatsApp, moi je conseille aux personnes de ne payer pas sans voir le produit. Le gouvernement a mis en place une plateforme de dénonciation www.denonciation.bj. Vous pouvez aller sur la plateforme ou appeler le 155.
Mais ce n'est pas seulement pour le consommateur que la vente en ligne présente des méfaits. Beaucoup de vendeurs se sont retrouvés face à des situations qui leur ont fait regretter d'avoir emprunté cette voie.
Il faut être connecté, il faut être disponible pour répondre aux clients. Tu vends des milliers de kilomètres, ils donnent un prix bas pour la commande. Et dès que c'est là, le transport est le triple ou le quadruple du prix de commande.
Devant la floraison des plateformes de vente, le Bénin s'est doté d'un arsenal juridique que doivent connaître les cybervendeurs nationaux comme étrangers. Il y a non seulement le code du numérique, mais également la loi portant protection du consommateur, la loi portant concurrence et le code pénal. Aimé Moussa Elisha est juriste.
Toute personne qui se serait rendue coupable de ces faits-là pourra être poursuivie et sera sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans d'emprisonnement, sans compter bien évidemment les amendes. Les amendes qui varient de 1 million à 5 millions et bien plus. plus parfois lorsqu'il y a récidive. Et lorsque nous sommes dans le cas d'un vol, on dira simplement que la personne sera poursuivie et sanctionnée d'une peine allant de 1 an à 5 ans toujours, mais d'une amende variant de 100 000 francs à 1 million de francs.
Mais toutes ces mesures juridiques contraignantes et une vague d'arrestations de cybercriminels n'enlèvent pas au secteur ses avantages. Géry Dabolino est web développeur et consultant en commerce international à Cotonou.
C'est un marché prometteur et qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché et qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes afin que le e-commerce en Afrique puisse vraiment décoller. Et il y a beaucoup de critères à prendre en compte lorsqu'on veut faire du e-commerce en Afrique. Si on doit fonctionner de la manière dont le e-commerce se fait sur ces autres continents, on va passer totalement à côté.
Selon les statistiques, le commerce en ligne en Afrique ne représente que 2% du marché actuel et le Bénin n'en possède qu'une infime partie. De Cotonou, Ginette Le Adandé pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Le Burkina Faso fait face à l'insécurité qui soulève toujours la question des droits humains. Comment mener la lutte contre le terrorisme en respectant les droits de l'homme? Le pays a initié des sessions pour former les encadreurs des volontaires pour la défense de la patrie, les VDP. Sur le terrain, ces supplétifs de l'armée auront à leur tour des rudiments pour prendre en compte la question des droits humains. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
La présente formation se tient à Koudougou, à une centaine de kilomètres de la capitale. Des encadreurs des VDP, des volontaires pour la défense de la patrie, à l'école des droits humains. Ils prennent ici des modules pour ensuite les dispenser sur le terrain, aux supplétifs de l'armée. Le lieutenant-colonel Thomas Savadogo est le commandant de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie.
Nous avons initié cette formation de formateurs en collaboration avec le ministère de la Justice, de sorte que sur le terrain, les encadrés des VDP puissent être outillés en droits humains afin qu'à l'issue de ces formations, ils repartent sur le terrain, encadrer ces VDP pour que ces VDP puissent avoir les notions élémentaires en respect des droits humains, de sorte que les actions puissent être vraiment conduites selon les règles édictées. À terme, nous aurons environ 240 formateurs qui seront formés et à l'issue, en fait, ces formateurs-là seront engagés sur le terrain à encadrer, à apporter ces enseignements, en fait, aux VDP dont ils ont la charge.
La formation est construite autour d'un manuel qui a été élaboré avec l'ensemble des acteurs concernés. Adiaratou Zongo, directrice générale des droits humains.
Vous avez dans ce manuel des éléments d'information utiles à l'action des VDP sur le terrain. D'abord sur les droits humains de façon générale, sur la protection des enfants, la protection des femmes, des personnes déplacées internes, également sur la protection des réfugiés. Également, nous revenons dans ce manuel sur les droits spécifiques qui, au regard du contexte sécuritaire difficile, peuvent se trouver menacés sur le terrain.
La présente formation est la septième du genre, selon Rodrigue Bayala, le ministre de la Justice.
Ça nous permet d'avoir non seulement des VDP qui ont connaissance, bien entendu, de comment effectivement ils peuvent protéger et faire la promotion des droits humains. Et vous savez également que dans le cas de cette lutte, il est nécessaire, sinon judicieux, que nous trouvons un équilibre entre la réponse militaire que nous apportons au terrorisme. Il faut trouver un équilibre entre cette réponse et la nécessité de la protection des droits humains.
Tous les VDP des 13 régions seront formés. Plus de 180 membres des forces de sécurité et des forces armées nationales ont déjà bénéficié de la formation des formateurs des VDP sur un total de 240 prévus. La formation est assurée par des spécialistes issus du ministère de la Justice, du parquet militaire, de l'UNICEF et des autres agences des Nations Unies au Burkina Faso. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester coacher à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VO Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.